Fiction, l'émission pour toutes les générations, conçue et réalisée par les jeunes de plus de 60 ans de Haute-Garonne.
Bonjour et bienvenue pour cette émission de juin 2020, réalisée dans l'entre-deux de ces espaces particuliers que sont le confinement et le déconfinement. Inspirée de nos vies intérieures et espaces extérieurs, entre ouverture au monde et univers intime, lenteur, contemplation et envie de bouger, telle est la teinte de cette balade concoctée pour vous, qui fut réalisée seule et ensemble tout à la fois avec Martine, Christiane, Margaret, Josie, Jake et Isa. Vous allez découvrir la poésie de l'intimité de textes écrits par Christine et Martine, visiter une galerie d'art personnalisée, goûter les bienfaits du miel, danser et rêver sur les musiques du monde. Mais avant tout, comment cela se passe aujourd'hui, chez vous, au Brésil et en Autriche?
Bonjour, je m'appelle David, j'ai 36 ans, j'habite à Sao Paulo au Brésil et j'ai eu le coronavirus. Je l'ai ramené en fait avec moi d'un voyage à Madrid tout début mars, alors qu'il n'y avait presque aucun cas au Brésil. Et dès que les premiers symptômes sont apparus, alors ça a été isolement avec ma femme, mes filles à la maison, grosse fièvre, épuisement, maux de tête très forts, sans parler d'autres petits symptômes. Donc c'est pas facile quand on est 24 heures sur 24, 16 jours sur 7 avec des enfants en bas âge à la maison. Ma femme l'a eu aussi, mais avec moins de symptômes, et nos enfants, s'ils l'ont attrapé, alors ça a été complètement asymptomatique. Le positif dans tout ça, mis à part le fait qu'on ait passé cette épreuve sans trop d'encombre, c'est qu'on a maintenant des anticorps, et d'après les études, on est un peu plus serein pour la suite. L'autre bon côté des choses est que cette quarantaine, on va dire de plusieurs mois, puisque pour nous il y a eu isolement total, puis quarantaine obligatoire, ça nous a permis vraiment de nous recentrer, je dirais, sur l'essentiel, de passer du temps en famille, d'avoir peut-être un nouveau regard sur nos priorités. Et même si c'est vraiment pas facile tous les jours, on gardera, je pense, une certaine nostalgie de ces quelques mois passés ensemble.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Je vis en Autriche avec ma femme et mes deux enfants de 5 et 7 ans. L'Autriche a été assez peu touchée par le Covid-19, même si elle a participé à son développement en Europe à travers les stations de sport d'hiver, notamment Kitzbühel. Pour nous, le confinement a été à la fois un moment de retrouvailles familiales, mais aussi un moment intense de fatigue. Ma femme et moi avons continué de travailler à plein temps, tout en assurant l'école la journée à la maison pour les enfants. Du coup, on a eu le droit à de longues soirées de travail et n'avons quasiment plus eu de temps de relâchement. En Autriche, le confinement semble avoir été plutôt bien géré. La population a bien suivi les règles et s'est très vite organisée, notamment pour l'école. La société étant largement décentralisée, on a géré les problèmes en local, en consensus, au lieu d'attendre des solutions venant d'en haut, qui au final sont tout de suite critiquées. Bien moins de discussions, de remises en cause, par exemple autour du thème des masques. Tout le monde l'a porté, et puis c'est tout. Avec une bonne gestion de la crise, les mesures ont été bien moins fortes ici en Autriche qu'en France, et le déconfinement plus rapide. Aujourd'hui, on souffle à nouveau. Les gens se retrouvent un peu partout, et ça fait du bien. On espère que le relâchement n'est pas trop rapide, et qu'il n'y aura pas de deuxième vague. On espère aussi pouvoir bientôt revoir nos familles après les annulations de voyages en début d'année. En tout cas, j'adresse un grand bravo à tous ceux qui ont dû faire face à cette crise, notamment ceux qui sauvaient des vies ou qui pourvoyaient aux besoins de la population. J'adresse mes salutations à mes compatriotes français et vous souhaite à tous un bon déconfinement.
Bref.
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 Il faut à la fois la pluie et le soleil pour faire un arc-en-ciel.
Voyage dans une œuvre d'art.
Bienvenue, mesdames et messieurs, pour la visite de la galerie virtuelle de peinture. Suivez le guide.
Gustav Klimt naît à Baumgarten, à 40 km de Vienne, en Autriche, en 1862, et il meurt à Vienne en 1918. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de voir la plus grande collection d'œuvres de Klimt au monde, à la Galerie Belvedere à Vienne. Avec notre guide, nous avons visité la galerie, y compris la collection de Klimt, et ensuite, nous avons eu du temps libre, soit pour visiter autre chose, soit pour revoir une collection. Sans hésiter, je me suis précipitée vers la collection de Klimt, qui m'avait émerveillée et qui m'avait marquée à vie. Les pièces étaient époustouflantes. je découvrais l'art d'un peintre symboliste autrichien, un membre très en vue du mouvement d'art nouveau et de la sécession de Vienne. La peinture Le Baiser fait partie de sa période or. La toile nous montre un couple enlacé. L'homme embrasse la femme sur le joug. L'homme est derrière la femme. On ne le voit à peine. C'est la femme qui prend le premier plan. C'est comme si l'homme est là uniquement pour mettre en valeur la femme. Presque en adulation. Ce tableau, Le Baiser, est probablement la pièce la plus célèbre de Klimt, qui devient même le sujet du film La femme au tableau avec Hélène Mirren. À voir ou revoir. J'ai eu la chance de retourner à Vienne l'année dernière et je voulais à tout prix revoir la collection de Klimt. Je n'étais pas déçue. Même si on retourne, même si on revoit les mêmes tableaux, on découvre quelque chose qu'on n'a pas vu la fois précédente. Notre humeur change et notre façon de regarder les œuvres aussi. J'espère que je vous aurai donné envie de développer vos connaissances, soit de l'artiste, soit de son travail. D'ailleurs, plusieurs musées ou galeries d'art offrent une visite virtuelle en ce moment. Profitez du moment et régalez-vous. Écoutons Franz Liszt, Liebestraum, Rêve d'amour.
Suivez le guide.
Continuons la visite et arrêtons-nous devant un tableau de la fin du 19e siècle. Ce tableau, je l'ai découvert pour la première fois lorsque je suis allée à Londres avec ma fille et que, bien entendu, nous sommes allés à la Tate Gallery. Je dis bien entendu, car la Tate Gallery, c'est le musée qui abrite la collection Turner et je ne pouvais pas rater ça. Mais ce n'est pas de Turner dont je veux vous parler aujourd'hui, mais d'un peintre, ou plutôt d'une peintre, beaucoup moins connue, Annalea Merritt. Quand j'ai vu son tableau « Love Locked Out », j'ai été profondément touchée. Et en plus, je ne savais pas à ce moment-là l'histoire qui était derrière cette œuvre. J'ai vu un enfant, de dos, totalement nu. Une fille, un garçon. Cet enfant est devant une porte ocre, encadrée de colonnes antiques. Sur l'une de ces colonnes, un rosier grimpant. Au sol, quelques feuilles mortes et un objet de métal doré que j'ai pris alors pour une coupe. La porte est visiblement verrouillée et l'enfant semble désespéré de ne pas pouvoir la pousser. La position de son corps renvoie à la fatigue. On ne voit pas son visage. Sa tête est légèrement baissée. Est-ce qu'il pleure ? Je me suis sentie triste pour cet enfant. Et avec cet enfant, j'ai ressenti sa solitude devant cette porte fermée. Le sentiment de rejet, d'exclusion. Quelle est cette porte ? Quel est cet endroit qu'on lui refuse ?
je me suis demandé ce qu'il voulait chercher de l'autre côté, qui il voulait rejoindre. Peut-être une personne aimée, peut-être sa mère. Plus tard, j'ai fait des recherches sur ce tableau et sur l'histoire de sa créatrice. Annalea Merritt est une artiste américaine, née au milieu du 19e siècle, qui part avec sa famille en Europe. Elle s'installe en Angleterre où elle épouse un professeur de Londres. Mais celui-ci meurt 2 mois après le mariage. Le tableau a été peint à sa mémoire en 1889. Ce que j'avais pris pour une coupe dorée est en réalité une lampe. Et je n'avais pas vu qu'il y avait une flèche sur le sol. Cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est Cupidon. Et cette porte qu'il essaie désespérément d'ouvrir, c'est une porte de tombeau. Il a abandonné sa lampe, comme s'il était resté toute la nuit devant cette porte et avait compris au petit matin que la bataille était perdue. Il attend, selon les mots de l'artiste, l'ouverture de la porte de la mort et la réunion du couple solitaire. Je ne savais pas tout ça, mais j'avais ressenti quelque chose de très fort face à ce tableau. Annalea Merritt a su faire passer ses sentiments à travers sa peinture. Cela explique certainement qu'elle a été la première femme qui a eu une peinture acquise par le gouvernement britannique, bien qu'elle n'hésitait pas à peindre des nus, alors que cela était jugé inadapté pour les femmes artistes. Annalea Merritt est décédée en 1930, et je suis sûre que la porte s'est alors ouverte.
Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. The cold black cloud is coming around, and I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, heaven's door. It feels like I knock, knock, knocking on heaven's door.
Suivez le guide.
Je ne sais pas trop comment parler de peinture, mais je peux dire un peintre qui m'a beaucoup ému, c'est Modigliani. Et pour lui rendre hommage, un texte de quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Claude Nougaro. Quand elle rentrait et qu'elle me voyait peindre, près du poêle, peindre une autre toile, elle s'arrêtait. Elle regardait. Mon pinceau était pris dans un pastis de bleu. Ça sentait le roussi. Je demandais, Il pleut. Silence sépulcral. Alors je lui faisais, en me grattant le poil, « Eh bien, qu'est-ce que t'en dis ?»« C'est pas très commercial. »« Commercial, je m'en fous, mais toi, patate, pomme, qu'est-ce que t'en dis ?» Elle répondait, « Moi, j'aime les hommes. Ils sont tous maudits, 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 dit Gliani. » Alors, entre la toile aveugle et le poil sourd, on faisait l'amour. Et quand elle s'endormait, dans son foie de velours, devant le nu, je commençais à peindre.
Quand elle rentrait et qu'elle me voyait peindre près du poêle, peindre une autre toile, elle s'arrêtait, elle regardait. Mon pinceau était pris dans un pastis de bleu, ça sentait le roussi, je demandais, il pleut. Silence sépulcral. Alors je lui faisais en me grattant le poil. Eh bien, qu'est-ce que t'en dis? C'est pas très commercial. Commercial, je m'en fous, mais toi, patate pomme, qu'est-ce que t'en dis? Elle répondait, moi j'aime les hommes. Ils sont tous maudits, 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 dit Gliani. Alors, entre la toile aveugle et le poil sourd, on faisait l'amour. Et quand elle s'endormait dans son foie de velours, devant le nu, je commençais à peindre.
Suivez le guide. Et maintenant, je vous invite à me suivre dans l'atelier de l'artiste Eliane Fantini. Quand Eliane Fantini m'a montré ses tableaux, mon œil a été attiré par ses trois têtes de taurillon sur trois côtés du tableau, tout autour des couleurs vives, rouge, orange, jaune, bleu clair, beige, blanc. Ces têtes paraissent tellement vraies. Je peux dire que ce tableau m'a tapé dans l'œil.
Beaucoup de tableaux que j'ai faits, surtout dans des grands formats, j'essaie de le mettre dans un format qui ressemblerait à un écran de télévision, afin de séduire l'éventuel acquéreur qui pourrait dire « Tiens, je n'ai pas la télé chez moi, mais j'ai un tableau. » Donc celui-ci est un 100x81. Je l'ai appelé les trois taurillons. Ce ne sont pas des taureaux, ce sont des taurillons en liberté. Et justement, ça m'évoque des souvenirs de quand j'allais voir les pèlerinages des Gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer, et que je voyais les lâchers de taureaux entourés des gardiens et de leurs chevaux, je trouvais très beau de voir ces taureaux courir en liberté. Et bien entendu que j'ai mis des couleurs rouges pour faire comme s'ils s'amusaient avec les capes des toréadors. Mais en fait, c'est un jeu, ils sont libres, ils s'amusent, et ils sont trois, donc ils s'amusent.
texte dans ma vie.
Un texte dans ma vie.
Les deux mois précédents empêchaient que nous étions à mettre le nez dehors. La maison et son alentour immédiat ont amené réflexion, prise de conscience et nouveaux regards. Au cours de rangements plus approfondis, j'ai retrouvé un texte écrit il y a quelques années que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Ma maison est un abri, un cocon, presque un îlot. Forte de ce qui l'entoure, elle est dans la juste proportion pour moi, pour la partager à deux. Il manque quand même l'espace pour le grand nombre qui fait vibrer, rire, danser. C'est une vieille maison, mise à ma disposition pour y trouver une place. Comme à chaque fois, les objets l'ont trouvé tout de suite à leur place. Les meubles se sont intégrés et moi et nous avons maintenant à créer la nôtre place. De cette maison, j'aime sortir. Parce que j'aime y revenir. Et ce que j'aime bien, c'est que je sors en deux temps. D'abord la cour, les pieds sur le gravier, c'est une consistance, un bruit. En même temps, les yeux sur les plantes, petit tour d'horizon, et les quelques pas jusqu'à la grande porte. Là, c'est le moment où le mouvement s'enclenche. À pied, dans le village, ou passant sous le porche, je dérange quelques pigeons, ou bien empruntant la voiture pour une destination plus longue. Au retour, j'ai toujours de l'étonnement à voir d'abord le clocher, de très loin. Je peux dire, c'est là que j'habite. C'est facile à trouver la maison accolée à l'église, tout comme elle était facile à trouver la maison des grands-parents sur la place. C'était marqué en grand. Café du centre. J'ai vécu à travers les récits du grand-père, de ma mère, à travers mes propres souvenirs et les transformations de cette bâtisse à prolongements multiples. Aujourd'hui encore, elle est retravaillée, relookée, prête à redémarrer de nouvelles histoires. Elle s'est faite au fil du temps et de l'usage. Du charron, qui réparait les charrues et chaussait les chevaux sur la partie arrière de la maison, au café, qui ouvrait largement la façade. Elle en a abrité du monde. Au fur et à mesure du temps qui change et des modernisations nécessaires, les pièces ont bougé, des morceaux se sont raccordés, des attributions différentes ont été données. Chaque fois qu'un travail de transformation commence, on trouve des traces, on repère l'ancienne cuisine, l'emplacement de la cheminée. Dans les entrailles mêmes, les matériaux anciens de terre, de torchis. Une maison comme ça a un sens. Vivante de chaque vie, raccord générationnel, elle continue aujourd'hui à avoir pignon sur rue, dans le centre du village, et vient mon tour d'amener ma part à son histoire. Ça me plaît bien, cette idée-là.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Et les nids des oiseaux. On allait
C'était La Maison, texte écrit par Martine Ballard. Et maintenant, Le Secret de Christine Noteau.
Le secret. Je voulais enfin le connaître et le reconnaître. Je décidai alors de revenir dans ce village isolé d'où j'avais été obligée de partir depuis ma plus tendre enfance. Maintenant adulte, il me fallait savoir. C'était une évidence. Trouver mes racines. Ils ont été surpris en me voyant arriver. C'est sûr, ils ne m'attendaient pas. Je m'installai alors dans un hôtel, sur leur territoire, prête à rester le temps de trouver. La plupart d'entre eux me dévisagèrent en me voyant et je n'ai eu droit qu'à de rares bonjours, dits du bout des lèvres. D'autres, plus rares, osèrent échanger quelques mots, mais dans le seul but évident d'obtenir la raison de ma présence. Étais-je là pour retrouver un lieu ? Étais-je là pour découvrir quelqu'un ? Mes propres sentiments entraient en opposition. Alors qu'enfin j'avais eu cette force de revenir et qu'un certain plaisir émanait d'être en ce lieu, je ressentais déjà cette hostilité, l'hostilité de ceux qui m'entouraient, ceux qui m'avaient connu, mais qui ne m'ont pas reconnu. Les deux semaines suivantes furent éprouvantes. Tous mes déplacements étaient épiés, toutes mes paroles, même les plus anodines. Même les plus anodines, elles étaient écoutées. Un jour, une forte tempête traversa le village, ce village si tranquille. Les arbres arrachés, l'électricité coupée, les habitations abîmées. Tous les villageois se prêtaient main forte, mais tous refusaient mon aide. L'exil se poursuivait. Mon corps ressentait encore ce rejet 30 ans après. Jusqu'au moment où l'un des hommes, sur qui je portais mon attention dans les recherches, me rendit responsable de la tempête. C'était moi qui avais porté malheur à ce village en revenant. Dure responsabilité. L'un de ses amis me demanda de repartir au plus vite, mais lui aussi m'intéressait. Lui aussi avait l'âge d'être mon père. J'avais le sentiment de déranger, de déstabiliser, de rouvrir des livres refermés depuis longtemps. Mes questions ne trouvaient que de minces réponses, et ces réponses comprenaient toujours un reproche. Elle était morte jeune, avec le chagrin qu'il lui avait causé. La maison avait brûlé pour effacer les traces de ce passé douteux dans lequel j'étais présent. La tension régnait et ne faisait que croître. C'était sûr, je ne trouverais rien, je ne saurais rien. Je devais repartir. Alors, au petit matin, discrètement, tranquillement, je renonçais et je repartais. C'est alors qu'il est apparu dans cette ruelle où mon hôtel se situait, marchant discrètement. Étonnée, surprise, découragée, moi qui n'attendais plus rien, mais il m'a dit: ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, mais dans le secret, dans l'illégalité, et je suis née. Alors elle est partie. Personne n'avait rien dit. Un enfant était là, mais lui ne pouvait rien. Terrassée, soulagée, étonnée, confuse, le vide avait remplacé l'attention. Il me donnait une photo. Leur photo, et me demander de repartir. Ce que je fis, mais maintenant, je savais.
Malade, toi seul peux me guérir. Aujourd'hui, je vais vous parler du miel. On nous conseille régulièrement de réduire notre consommation d'aliments sucrés. Mais le miel a quelque chose de particulier. Ce produit unique résulte de la récolte méticuleuse du nectar des fleurs par les abeilles. Le fruit d'un tel travail ne peut être que bon. Le miel renferme plus de glucides que le sucre, 65 calories par cuillère à soupe, contre 48 pour le sucre blanc. Les calories mises à part, il offre de surprenants bienfaits pour la santé. C'est une bonne source énergétique, avec 30% environ de glucose. Le miel est idéal en cas de coup de pompe pour vous redonner un coup de fouet. Toutefois, prudence, si vous avez du diabète ou si vous surveillez de près votre poids, car même avec un pouvoir sucrant supérieur au sucre, il reste très calorique. Le miel tue les bactéries et accélère la cicatrisation. Il est utilisé dans certains services hospitaliers pour aider à la cicatrisation des plaies et des brûlures. Pas n'importe lequel. Les médecins utilisent des miels d'une grande pureté bactériologique et plus spécifiquement des miels de thym au pouvoir antiseptique reconnu. C'est aussi un laxatif naturel. Du fait de sa forte concentration en fructose, le miel est le remède idéal contre la constipation occasionnelle. Et d'où vient le miel ? Les abeilles aspirent un peu de nectar lorsqu'elles butinent de fleur en fleur. Elles le stockent dans leur jabot et le rapportent à la ruche. Ce nectar est transformé en miel grâce au travail des ouvrières qui l'aspirent, puis le recrachent, le mêlant à leur salive et à des sucs digestifs. Il est ensuite placé dans les alvéoles de cire hexagonale pour nourrir les jeunes. Le nectar liquide se transforme en miel par évaporation. Le produit fini se compose principalement de sucre ainsi que d'un peu de pollen, de cire, de protéines, de vitamines et de minéraux. La lavande, les fleurs d'agrumes et de framboisier fournissent des miels savoureux. Donc, quelques précautions à prendre. Ne donnez jamais de miel aux enfants de moins de 1 an, car il peut contenir une petite quantité de spores issues de la bactérie Clostridium botulium, responsable d'une maladie grave appelée botulisme. Ces spores ne se développent pas dans l'intestin des adultes ni chez les grands enfants, mais elles peuvent se multiplier chez les bébés et provoquer une forme grave d'empoisonnement alimentaire, le botulisme infantile. Méfiez-vous aussi des suppléments de gelée royale, substance que les abeilles produisent pour nourrir les larves appelées à devenir reines. Ils peuvent, chez certaines personnes allergiques qui en consomment, provoquer des crises d'asthme. Les produits de la ruche sont des produits naturels exceptionnels. Choisissez-les d'origine biologique, car c'est la garantie qu'ils ont été fabriqués en préservant l'environnement et dans le respect du bien-être des abeilles.
Qui sont-elles ? Où vont-elles ? Elles ont des ailes, elles ont des ailes. Qui sont-elles ? Où vont-elles ? Elles font la cire et le miel. Sortant de leurs alvéoles, les ouvrières s'envolent, courageuses. Elles reviennent chargées de pollen. Qui sont-elles ? Où vont-elles ? Elles ont des ailes, elles ont des ailes. Qui sont-elles ? Où vont-elles ? Elles font la cire et le miel. Quittant la ruche et la reine, elles butinent dans la plaine.
guitare chargée de nectar. Qui sont-elles? Où vont-elles? Elles ont des ailes, elles ont des ailes. Qui sont-elles? Où vont-elles? Elles font la cire et le miel. Un essaim qui tourbillonne, une escadrille qui bourdonne, une usine en réduction que nous admirons. Qui sont-elles? Où vont-elles? Elles ont des ailes, elles ont des ailes. Qui sont-elles? Où vont-elles? Merci, merci les abeilles.
C'est l'heure de la
musique chronique.
Génération.
Nous vous racontons
la petite histoire
cachée derrière
une grande chanson. Aujourd'hui, je vous emmène depuis votre fauteuil faire un petit tour du monde musical. Commençons avec l'Europe. Choix difficile. L'Europe est extrêmement riche en musique, donc j'ai choisi un morceau de mon pays d'origine. En Grande-Bretagne, il y a une population importante d'origine indienne et pakistanaise qui a influencé la culture culinaire, la culture musicale, d'ailleurs la culture tout court. La philosophie, la spiritualité de cette région du monde plaisent à la nation. Voici les Beatles qui chantent Tomorrow Never Knows de l'album Revolver. Christiane, tu nous emmènes où?
Eh bien, nous allons partir pour l'Afrique, et même tout au nord de l'Afrique, avec le grand musicien et chanteur kabyle Yidir. Ami de Chériette de son vrai nom, il a fait connaître la culture berbère dans le monde. Un de ses premiers titres, « Eveve Inouva », devient un tube planétaire dans les années 70. Il a abordé les thèmes de l'amour, de la liberté et de l'exil qu'il a connus en s'installant en France en 1975. Il a toujours défendu la diversité culturelle et a fréquemment collaboré avec des artistes de tous horizons, de Manu Chao à Geoffrey Auriemma, en passant par Grand Corps Malade ou Charles Aznavour. Yidir est décédé il y a très peu de temps, mais il nous a laissé de superbes morceaux. Ses créations comme ses adaptations kabyles de chansons que nous connaissons tous par cœur sont de toute beauté. J'ai eu beaucoup de mal à choisir celle que j'allais vous proposer. Je me suis arrêtée sur la corrida, chantée avec Francis Cabrel, qui me donne des frissons. Ouvrez grand vos oreilles.
أربع الراس لي غين عيام يطبل ذا الغضاء وسنان وكيد يعدان يفرنتي سورا وقرني يد غر ومنار يوثي يدي طيش سلن وفي غسل غاشي عمار الرني يرسل أبراحي هكيث مغرب سوز قرر ذورارن سفتني يدي والخيال سشاش زقوغ
Est-ce que ce monde est sérieux
دوني داقيدا غورو
Andalousie Je me souviens, les prairies bordées de cactus Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus Je vais l'attraper, lui et son chapeau Les faire tourner comme un soleil Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles Luisa Guida Porro
Est-ce que ce monde est sérieux? A couleur ou de soie, elle est ici et on y est Mais sous ma ida tarza, un taquin ou un richoudo.
Et maintenant, prenons un vol en direction de l'Afrique du Sud. Mon rêve est de visiter ce beau pays. Avec ses cultures riches et diverses, et bien sûr ses paysages, la savane, ses réserves où on trouve une vie animalière, protégée, mais en état sauvage. Aussi, les odeurs, la luminosité, quel dépaysement! L'autre jour, et pendant le confinement strict, une amie de l'Afrique du Sud m'a envoyé cette musique de son pays, Chocholosa. Depuis les années 60, cette musique est devenue le symbole de l'encouragement, de l'espoir et de la solidarité. Quand le monde dit « ce n'est pas possible », l'Afrique du Sud répond en se ralliant pour réussir. Et pour terminer ce tour du monde en musique, traversant les océans jusqu'à l'archipel d'Hawaï pour la chanson proposée par Josie. Il s'agit de Over the Rainbow qui a été chantée initialement par Judy Garland dans Le Magicien d'Oz. Ici, dans une version polynésienne. Sortez les ukulélés et les colliers de fleurs.
dreams that you dream of once in a lullaby.
Et voilà, notre petit tour musical s'achève. Reprenons l'avion pour l'Europe. J'espère que vous avez rêvé, comme moi, depuis votre salon, de toutes les choses que vous espérez faire dans un avenir pas trop lointain. Faites la liste et allez-y, foncez, pas de regrets.
Le projet Génération, c'est avant tout un spectacle, puis une émission radio, et toujours un rendez-vous artistique et d'expression réalisé dans le cadre de l'association Artis. Il est financé par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Conférence des financeurs, en partenariat avec Radio de la Save, bien sûr. Nous invitons nos 60 ans et plus à rejoindre l'aventure de Génération.